Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour à tous, bienvenue dans Univox présenté depuis Radio Campus Besançon. Aujourd'hui, on décortique Star Wars, la saga de George Lucas. Des chercheurs de l'université de Bourgogne-Franche-Comté ont cherché à mettre la guerre des étoiles à l'épreuve de la physique. Le résultat est exposé à la Fabrique à Sciences, un espace culturel de vulgarisation scientifique de Besançon. Aujourd'hui, sur Radio Campus, le cinéma vient au secours des enseignants-chercheurs.
Univox.
Parmi les chercheurs qui ont planché pour savoir si Star Wars c'est réaliste, David Viennot, il est maître de conférence à l'Université de Franche-Comté, chercheur à l'Institut UTINAM, un laboratoire mixte de l'université et du CNRS. Alors vous savez, quelquefois dans les films, on cherche les faux raccords, un acteur qui porte une montre alors que c'est un film sur le Moyen-Âge. Eh ben lui, c'est un peu pareil, mais avec les lois de la physique. Sa spécialité, c'est la relativité. Alors autant vous dire que quand David Viennot a regardé Star Wars, il y a certains détails qui lui ont sauté aux yeux tout de suite.
Dans Star Wars, on a des vaisseaux qui vont extrêmement vite, qui permettent de franchir des distances galactiques en très peu de temps, alors qu'il y a une vitesse indépassable, d'après les lois d'Einstein, qui est la vitesse de la lumière dans le vide. Cette vitesse, elle est 300 000 km par seconde, alors ça paraît énorme, mais à cette vitesse-là, il faudrait 3 ans et demi pour aller du Soleil vers l'étoile la plus proche. Et à une échelle galactique, il faut environ 100 000 ans pour pouvoir se déplacer du centre d'une galaxie vers l'extérieur.
Donc, quand Han Solo passe son vaisseau, le Faucon Millenium, en vitesse supraluminique et qu'il traverse des galaxies, en fait, ce n'est tout simplement pas possible.
Le fait d'aller à une vitesse très proche de la vitesse de la lumière crée aussi un phénomène de dilatation du temps qui est prévu par Einstein, qui fait que celui qui se déplace vite a son horloge qui se désynchronise de ceux qui sont restés sur place. Alors par exemple, dans l'épisode 2 de Star Wars, quand Obi-Wan Kenobi part de la planète Coruscant, de la planète des Jedi, fait tout un tour dans la galaxie et revient, on peut compter que s'il se déplace à un chouïa près de la vitesse de la lumière, pour lui, le trajet ne dure qu'un an et demi, alors qu'il s'est écoulé 100 000 ans du point de vue de Coruscant. Donc non seulement il s'écoule 100 000 ans du point de vue de la galaxie, mais il s'est écoulé tellement moins de temps pour lui qu'il arrive avec un décalage temporel qui fait que ça fait longtemps que l'Empereur contrôle la galaxie.
Pareil, dans Star Wars, on nous présente un vaisseau armé super puissant, l'étoile de la mort, capable d'émettre un rayon destructeur qui peut exploser des planètes. Alors, question, possible ou pas?
Pour concentrer un faisceau laser tel que celui de l'étoile de la mort pour détruire une planète entière, la quantité d'énergie qui est présente dans la galaxie serait pas suffisante, rien que pour créer le faisceau laser. D'abord, parce que on ne peut pas convertir à 100% l'énergie pour qu'elle soit utile, donc il y a beaucoup de déperdition d'énergie. Ensuite, la lumière est pas très efficace pour détruire. Il serait préférable d'utiliser des bombes nucléaires ou quelque chose de ce type-là. Et puis il y a un autre problème, c'est que compte tenu de la taille de l'étoile de la mort, elle devrait s'effondrer sur son propre poids, par effet de gravité, et se rétracter sur elle-même. Les matériaux, la résistance des matériaux mécaniques type métallique, tel qu'on le voit dans l'étoile de la mort, ne permettrait pas, vu la taille qu'elle représente, elle est quasiment aussi grosse qu'une lune, ne permettrait pas d'assurer sa cohésion. Donc l'étoile de la mort, c'est pas très très crédible non plus.
Donc traverser les galaxies à la vitesse de la lumière, on a dit que c'est pas possible, dégommer des planètes non plus. Alors forcément, pour les sabres laser, on se pose la question.
Pour les sabres laser, d'abord, George Lucas s'est bien gardé de donner trop d'explications. Et en version originale, ça s'appelle lightsaber, c'est-à-dire sabre de lumière, c'est pas forcément des lasers. Il est bien clair qu'un laser, déjà d'une part, les faisceaux lumineux vont pas s'arrêter au bout d'un mètre, hein, qui est à peu près la taille d'un sabre laser, ils vont continuer indéfiniment. Et en plus, ils ne sont pas solides. C'est-à-dire, si vous tapez deux lasers l'un contre l'autre, ils vont se traverser l'un l'autre. Maintenant, si on étend un petit peu la notion de sabre de lumière, on pourrait penser que ce qui se rapprocherait le plus serait une torche à plasma. Alors un plasma, c'est un gaz ionisé extrêmement chaud qui fait qu'il émet de la lumière. Le soleil, c'est qu'une immense boule de plasma. Donc on pourrait imaginer une torche plasma qui serve de sabre. Alors juste la difficulté, c'est que les températures sont à plusieurs milliers de degrés et qu'à tenir à bout de bras, ce serait pas recommandé. Là, on est vraiment dans des températures où il n'y a absolument aucun matériau qui ne fonde pas. Donc, vu la température, ce serait vraiment difficile. Ensuite, même des sabres à torche plasma, elles ne se rencontreraient pas. C'est-à-dire le plasma, c'est un fluide. Donc, si on les tapait l'une contre l'autre, elles se traverseraient l'une l'autre.
On pourrait pas se battre
comme avec des épées. Sauf à trouver un état de la matière tout à fait nouveau. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas d'état de la matière qui reproduise correctement les sabres laser de la trilogie.
Mais le pouvoir le plus balèze dans Star Wars, c'est quand même la Force, qui permet aux Jedi de faire un peu tout ce qu'ils veulent, faire bouger des choses dans l'espace, contrôler l'esprit de leurs ennemis.
Car mon allié est la Force, et c'est de mes alliés la plus puissante. La vie l'a créée, l'a fait grandir. Son énergie nous entoure. Tu dois sentir la Force autour de toi.
Ça, c'est magique. La maîtriser comme le font les Jedi par la pensée, il est clair que non, ça n'est pas compatible avec les lois actuelles de la physique. Par contre, la Force telle qu'elle est représentée dans les épisodes de Star Wars a tout de même pas mal de caractéristiques avec l'interaction électromagnétique, c'est-à-dire avec une force qui existe. Par exemple, on voit souvent les seigneurs Sith lancer des éclairs de force avec leurs mains. Le souci, c'est à nouveau une question de puissance. Par exemple, quand on voit l'empereur lancer des éclairs à 2 mètres de distance, il faut bien savoir que pour que l'électricité traverse l'air, il faut environ 20 000 volts par centimètre à traverser. Donc on est sur des voltages extrêmement importants. Alors c'est pas très difficile de créer un voltage de plusieurs centaines de milliers de volts. Ce qui est plus difficile, c'est de le créer avec une forte intensité, avec beaucoup de courant qui traverse. Et vu qu'il s'en sert pour torturer ses ennemis, il faut quand même qu'il y ait pas mal de courant, donc vers les 300 milliampères. Et ça représente une puissance motrice qui est l'équivalente de celle d'un moteur d'hélicoptère Tigre, qui sont les moteurs de l'armée française. Donc techniquement c'est possible, ensuite savoir comment psychiquement il arrive à générer une puissance de cette intensité-là, ça paraît quelque peu difficile, c'est-à-dire qu'il faudrait imaginer, si on voulait le réaliser, avoir un hélicoptère de Tigre dans le dos pour avoir une génératrice suffisante pour lancer des éclairs à cette distance-là.
Oui, ça, a priori, bon, c'est pas trop possible. Mais par contre, la force en tant que telle, c'est quelque chose qui vous parle, quoi. Ça vous paraît pas complètement absurde?
Alors, la chose qui paraît la plus science-fiction dans la force, c'est l'influence des esprits faibles. Mais on a déjà eu des expériences dites de stimulation magnétique transcrânienne, où on met carrément des électrodes dans le cerveau de patients et qu'on stimule magnétiquement. Et on a déjà, par des expériences comme ça, réussit à modifier l'état d'esprit des patients. Alors c'est transitoire, mais par une stimulation magnétique, c'est-à-dire par une force extérieure, on a pu changer leur état d'esprit, par exemple en les rendant plus ou moins croyants en Dieu. Alors pour l'instant, on peut pas faire grand-chose, on peut pas influencer l'esprit des personnes pour leur faire faire ce que l'on veut, ça reste très limité, mais étant donné que le cerveau est une machine qui fonctionne par impulsion électromagnétique, puisque les neurones échangent des impulsions électriques, une stimulation magnétique de certaines zones du cerveau peut influencer la manière de penser d'une personne.
Et Star Wars, bien sûr, c'est ce choix entre le bien et le mal, le côté lumineux de la Force et son côté obscur. Et ça parle complètement aux physiciens.
On observe en cosmologie que les galaxies s'éloignent les unes des autres avec une vitesse qui s'accélère. Donc il y a une force qui provoque l'éloignement des galaxies les unes par rapport aux autres, dont on ne connaît absolument rien. Donc ce qu'on appelle l'énergie sombre. Et cette énergie sombre, reliée avec une forme de matière qu'on ne connaît absolument rien non plus, qu'on appelle l'énergie noire, la matière noire, pardon, représente entre elles 95% de la masse énergie de l'univers. Donc tout un côté obscur de la physique qui est totalement inconnu. Malgré toutes nos tentatives d'observation, on ne voit rien. Donc c'est forcément quelque chose qui a un comportement très sombre, au sens où il n'émet aucun rayonnement, ni dans le visible, ni dans les autres sources de rayonnement qu'on utilise habituellement pour détecter les objets. Je pense que d'un certain point de vue, Star Wars est plus de l'heroic fantasy. C'est plus proche du Seigneur des Anneaux et des légendes arthuriennes ou de la mythologie grecque que de la science-fiction au sens d'anticipation de ce qui pourrait être. Donc le contexte spatial n'est qu'un contexte d'heroic fantasy particulier par rapport à un monde fictif qui serait celui de la Terre du Milieu pour le Seigneur des Anneaux ou des Neuf Mondes pour la mythologie nordique par exemple. Et je pense que c'est plus proche d'une interprétation de ce type-là que vraiment de la science-fiction. Donc justement, quand on essaie de comparer l'univers de George Lucas avec la physique, on a un décalage énorme parce que ça se prête pas vraiment à une interprétation physique. C'est, au lieu de terrasser des dragons et d'avoir un chevalier noir, on a des gens qui se battent avec des sabres laser. Mais c'est simplement une remise dans un contexte moderne de mythes ancestraux. Et je pense que c'est ça qui fonctionne.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bon, vous l'aurez compris, George Lucas n'aurait pas validé son diplôme de physique. Heureusement, il a plutôt choisi le cinéma. Pour aller plus loin, l'exposition Star Wars, les chercheurs contre-attaque, c'est à la Fabrication sur le campus de la Boulois à Besançon tous les dimanches jusqu'au 31 de 14h à 18h. Donc il vous reste 3 semaines pour y aller. Pour nous parler de ce lieu, la Fabrique à Science et de cette dernière expo, nous retrouverons dans un instant notre invitée Johanna De Ridder. Elle est responsable de la Fabrique. Avant ça, pour vous mettre le sourire, hocus pocus, smile.
Just give me that smile. No, no. Oh baby, come on. No, no. I can't live without it. No, I can't. I need that one, not twice, not three, baby. Just give me that smile.
Donne-moi ce sourire.
Oh baby, come on.
Donne-moi ce sourire que je l'ajoute à ma collecte. Un plus dans ma smilothèque avec celui qui dessine tes pochettes. Say cheese, car le petit oiseau va sortir. 3, 2, 1 et immortalise ce sourire. Laisse-moi tirer le portrait. J'suis un maniaque d'image. Hein. Sourire à chaque mot, sourire à chaque note, sourire à chaque visage. Prendre ses pauses pour figer le temps, faire kiffer les gens et voir briller, briller, briller les dents.
Just give me that smile.
Donne-moi ce sourire.
Oh baby, come on.
Donne.
I can't live without it. No, I can't. I need that one, yeah. Not twice, not three, baby. Just give me that smile.
Et c'est ta dame. Je zoome, lâche ta plus belle arme, ça tourne. Je veux pas de maquillage,
de clown,
de masque, de personnage.
Garde-vous,
développer les négatifs de ce moment positif. Fixer, 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 fixer l'objectif.
Donne-moi
ce sourire, ce contraste, ce pigment sur fil noir et blanc.
Smile,
technicolor, ultra bright, édenté ou émail, diamant. C'est dans la boîte, en péloche, en bola ou pixel. Je veux pas du small. Mais du smile XXL.
Just give me that smile.
Donne-moi ce sourire.
Well baby, come on.
Donne.
I can't live without it. No, I can't. I need that one. Not twice,
yeah.
Not three, baby.
No,
I need that one, yeah. Not twice, not three, baby.
Oh.
Just give me that smile.
Donne-moi ce sourire.
Well, baby, come on.
Done.
I can't live without it. No, I can't. I need that one,
yeah.
Not twice, not three, baby.
Woo, baby.
That smile.
Hocus pocus smile. Aujourd'hui, on parle de l'expo actuellement à la Fabrique à Sciences, les chercheurs contre-attaquent sur Star Wars et sa crédibilité scientifique. Pour en parler, on accueille Johanna de Rieder, responsable de la Fabrique à Sciences. Bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être pour commencer, vous pouvez nous présenter cette structure en quelques mots.
Alors oui, la Fabrique à Sciences, c'est un lieu, c'est une espèce de porte ouverte sur l'université et la recherche qui est menée. Donc c'est un lieu de 300 mètres carrés, on a une salle d'exposition et une salle d'animation. Alors dans la salle d'exposition, on a monté un partenariat avec le pavillon des sciences de Montbéliard, qui est le centre de culture scientifique régional. Donc avec ce partenariat, en fait, on crée des expositions avec les chercheurs de l'Université de Franche-Comté et le pavillon des sciences fabrique les expositions parce que nous, on n'a pas ces compétences en local à l'université. Voilà. Et ces expositions, on les fabrique. Donc il faut voir que c'est des expositions interactives. On choisit un sujet de recherche, un sujet scientifique. On le développe, on en fait des manips, donc ce qu'on appelle nos des manips, c'est-à-dire des meubles avec lesquels on va jouer pour essayer de comprendre des concepts scientifiques. Et pour une durée d'à peu près une exposition, on va prendre à peu près 2 heures pour la visiter, quoi. Voilà, on propose ces expositions au public scolaire la semaine sur réservation et au grand public tous les dimanches après-midi, donc de 14h à 18h. Et là, c'est là où la salle d'animation entre en jeu parce qu'on propose à la fois cette visite d'exposition et à 15h, on propose tous les dimanches une animation différente. Pour le grand public, alors en général on donne un âge, on peut faire des animations à partir de 5 ans, à partir de 8 ans ou à partir de 11 ans, mais ça marche aussi pour les adultes, hein. Et donc chaque dimanche on va travailler avec un chercheur, avec un étudiant, pour développer une animation scientifique qu'on va proposer au public.
Et alors par exemple ce dimanche, ce sera j'imagine en rapport avec Star Wars.
Oui, tout à fait, ouais, on surfe quand même sur la vague Star Wars. Donc là c'est des étudiants de l'ESPE qui ont, donc parce qu'on fait quand même, c'est vrai que la Fabrique est une porte ouverte sur l'université et la majeure partie des gens qui participent, qui nous aident à monter cette structure sont soit des chercheurs, soit des étudiants. Donc là pour ce dimanche, des étudiants de l'ESPE, donc qui vont devenir enseignants plus tard, qui nous ont fait donc une animation qui a eu lieu la semaine dernière, c'était sur l'astronomie dans Star Wars, donc on a fait un système pas solaire, mais un système qu'on a imaginé dans le monde de Star Wars. Et cette semaine, ben là, dimanche, on va travailler sur la robotique. Et donc, on va un peu se pencher sur les robots qui sont assez présents dans le monde de Star Wars. On va un petit peu regarder, est-ce qu'ils sont aussi toujours pareils. On va les mettre à l'épreuve de la crédibilité scientifique. Et on va se poser la question au fait, la robotique, on en est où dans la recherche, à la fois à l'université, mais aussi ailleurs dans le monde? Qu'est-ce qu'un robot aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va chercher à lui faire faire? Et à la fin, chacun va créer son propre robot en fonction des usages qu'il voudra en faire. Et donc, voilà, ça c'est une animation qui est particulièrement adaptée aussi aux petits, donc à partir de 5 ans.
Donc cette animation, ce sera ce dimanche à partir de 15h. Pour revenir sur l'exposition Star Wars, les chercheurs contre-attaquent, comment ça s'est monté ce projet? D'où est venue l'idée?
Alors, il faut avouer que c'est un petit peu un hasard. Des fois, les idées les plus rigolotes nous viennent comme ça, un peu au débotté. Et ce qui se passait en fait, c'est qu'on avait une exposition qui était prévue et qui était en retard. Une assez grosse expo qu'on est en train de monter en géographie, on pourra en parler tout à l'heure. Et c'est vrai que donc dans ce cas-là, on se réunit, on est une petite équipe, et puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant? Qu'est-ce qu'on va proposer au public? Et on avait l'occasion soit de louer une exposition par ailleurs, soit de créer nous-mêmes une exposition avec un scénographe avec lequel on travaille. Et l'idée de Star Wars, on était début décembre, et on entendait partout dans les médias l'arrivée de Star Wars, etc., du film. Et on s'est dit, ce serait quand même génial de faire ça. On connaissait des physiciens notamment qui s'intéressaient à ces films et qui avaient fait des calculs assez rigolos autour de ces films. Donc on s'est dit, tiens, ce serait une super idée de monter une expo avec les chercheurs de l'université sur la thématique Star Wars.
Donc ils sont 4 à avoir joué le jeu et à s'être prêté à tous ces calculs. C'est bien ça. Et donc on aborde différents thèmes là. Donc on a eu le point de vue du physicien, mais c'est plus large que ça.
C'est plus large que ça. On a allé interviewer un roboticien qui nous a donc sur la thématique robot dont je parlais tout à l'heure. Maxime Jacot qui nous a parlé aussi des hologrammes, parce que c'est vrai ça a été pas mal dans le cadre de l'année mondiale de l'année internationale de la lumière, on a beaucoup parlé des hologrammes, donc ça nous a permis d'en reparler un petit peu, parce que dans Star Wars on voit apparaître des hologrammes et on se repose la question de est-ce que c'est possible de voir un hologramme apparaître comme ça au milieu de nulle part, etc. Qu'est-ce qu'il faut en fait pour qu'un hologramme puisse apparaître? Et on a un point de vue aussi intéressant d'une chercheuse en sciences humaines, cette fois-ci, qui elle, s'est intéressée à la question d'être fan. Et c'est vrai qu'on a pu voir à la sortie du film à quel point les fans de Star Wars étaient toujours de plus en plus nombreux, j'allais dire aussi nombreux, mais en fait de plus en plus nombreux. Et elle se pose la question de savoir si, qu'est-ce qui fait que un livre, un film ou une saga va développer ou non un phénomène de fans comme c'est le cas pour Star Wars. Donc c'est aussi un point de vue un peu différent mais intéressant. Et puis la dernière problématique, là, c'est pas une chercheuse qui nous en parle, c'est plutôt un jeu qu'on a monté. On a voulu parler un petit peu de biologie, parce que c'est vrai que dans le monde Star Wars aussi, on voit beaucoup apparaître des animaux complètement incroyables, ou des hommes aussi, dans des mondes un peu assez incroyables. Donc on a revu, on a redonné quelques exemples d'animaux qu'on pouvait retrouver dans les différents films, et en les associant à leur milieu de vie, donc le désert, le marais, etc. Et en fait, on se pose la question de faire exactement comme ce que font les biologistes en classification, c'est d'essayer de classer un peu ces animaux en fonction de où ils viennent et comment ils se sont développés, comment l'évolution a joué sur ces animaux. Et on demande au public de fabriquer un animal qui pourrait vivre dans un de ces milieux dans le monde de Star Wars. Voilà, ça c'est la dernière partie, plutôt biologie.
Donc l'expo Star Wars, les chercheurs contre-attaque, c'est encore visible jusqu'au 31 janvier.
Tout à fait.
La prochaine exposition dont vous nous parliez, qui est en train de se préparer, qu'est-ce que ce sera? Vous pouvez nous en donner un petit avant-goût?
Ah, je peux, oui. Alors il s'agit d'une exposition dont on a trouvé le nom il y a peu de temps, hein, qui s'appelle Géographe à la recherche d'un monde durable. Donc on a travaillé avec le laboratoire de recherche TEMA, donc le laboratoire de recherche franc-comtois en géographie. On a regardé un petit peu toutes les thématiques sur lesquelles il faisait des recherches aujourd'hui, et on a trouvé que c'était vraiment très intéressant parce que c'était très éloigné de l'idée qu'on se faisait de la géographie, ce que appelle la géographie à papa. Donc la géographie a énormément évolué dans les 20-30 dernières années, et on a vraiment cherché dans cette exposition à montrer à quel point la géographie était au centre d'énormément de problématiques, notamment de problématiques politiques. Donc il y a toute une partie en géopolitique locale. Aussi sur le développement des villes. Donc il y a une grosse partie dans cette exposition sur comment on développe une ville, comment on va vers une ville qui nous semble plus utopique, plus durable, comment les géographes interviennent dans le monde des acteurs, des décideurs, pour aller vers ce genre de choses un peu plus utopiques, un peu plus c'est pour ça qu'on est allé sur la recherche d'un monde durable. C'est vraiment au cœur de leur recherche. Et pour ça, donc, c'est une exposition, hein, une de ces grosses expositions qu'on fabrique avec les pavillons des sciences. Donc il y aura beaucoup de jeux, beaucoup d'interactions. Notamment, il y a des jeux de rôle dans cette exposition. Voilà, donc je pense qu'adapté à partir de l'âge de 7 ans à 99 ans.
Et ça commence en février?
Et ça commence à la fin des vacances de février, donc plutôt tout début mars.
On aura sûrement l'occasion d'en reparler sur Radio Campus. Merci Johanna Derrider d'avoir été notre invitée.
Merci à vous.
Pour rappel, l'expo Star Wars, les chercheurs contre-attaque, c'est à la Fabrique à Sciences jusqu'à la fin du mois, tous les dimanches de 14h à 18h, et c'est gratuit.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
On se quitte en musique avec What is Hip, Tower of Power. Je vous souhaite à tous une très très belle journée.
you.